Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Christelle Petit-Collin, je suis conseillère formatrice en communication, psychothérapeute, conférencière et écrivain, puisque j'ai sorti 5 livres chez Jouvence, dont je ne vais même pas me rappeler des titres, Bien communiquer avec son enfant, S'affirmer et oser dire non, Émotion, mode d'emploi, Scénario de vie gagnant, et le petit dernier qui est sorti cet été, Les clés de l'harmonie familiale. Donc, qui est le thème de cette conférence de maintenant. Nous sommes ensemble pour parler de nos familles, de comment elles marchent. Dans un premier temps, donc, je vais vous faire un exposé, et puis dans la deuxième partie, je prendrai un moment pour répondre à vos questions et aussi recueillir vos témoignages. Donc, la famille est un thème qui est très fortement valorisé, pratiquement sous toutes les latitudes. Une famille unie, chaleureuse, une famille qui nous soutiendrait, qui nous comprendrait, qui nous aimerait. Tout le monde en rêve, et dans la réalité, malheureusement, ça ne se passe pas toujours comme ça, et il semblerait même que sur les 100 dernières années, il y ait même une sacrée dégradation des relations familiales. Il y a environ 100 ans, une famille, c'était surtout une terre, un patrimoine, et tous les éléments de la famille qui gravitaient autour de ce patrimoine, et puis petit à petit, la famille est devenue beaucoup moins importante. Les cousins issus de germains, par alliance, etc., c'est de moins en moins fréquent qu'on les fréquente, justement. La famille est devenue de plus en plus petite. Souvent, quand on dit famille, on dit essentiellement parents, enfants et un tout petit peu les grands-parents. On fréquente de moins en moins ses frères et sœurs, c'est statistique, à l'âge adulte, souvent à cause des beaux-frères et des belles-sœurs. Et on a vu ces dernières années se multiplier les divorces et les brouilles familiales. De plus en plus souvent, l'école des grands-parents reçoit des coups de fil de grands-parents qui ne voient plus leurs petits-enfants parce que les enfants leur ont reproché une attitude, un mot, une gaffe. On se pardonne de moins en moins les gaffes relationnelles, ce qui veut dire qu'il faut que nous apprenions tous à devenir de hauts diplomates pour ne pas froisser les susceptibilités des uns et des autres. Au fur et à mesure que les familles ont rétréci, notre identité s'est-elle développée et on s'oriente résolument vers une exigence de respect et de qualité. Service et indépendance pourraient être les maîtres mots pour qualifier les relations des familles d'aujourd'hui. Alors, en parallèle de ça, eh bien, une famille, c'est une entité qui vit, qui grossit, qui change, qui évolue au fur et à mesure de la vie. Ça commence en général par la mise en couple d'un homme et d'une femme qui s'aiment et qui ont décidé de bâtir quelque chose. Et donc, au-delà de la période des séductions et de cette mise en couple, vont naître les enfants. Il y aura toute la période que vous connaissez bien qui est l'art de les élever. Et puis ensuite, la période quand ils deviennent adolescents, l'art de les laisser à leur tour entrer dans le monde de la séduction et des adultes. Se sevrer de nos enfants, c'est un moment qui n'est pas très facile. Les pousser un peu hors du nid. Cette période de plénitude qu'on connaît, je ne sais pas si vous connaissez la blague du philosophe qui dit « La vraie vie commence quand les enfants ont quitté l'université et que le chien est mort ». Hein, donc c'est une période de plénitude. Et puis viendra ensuite l'arrivée des petits-enfants et d'autres joies, d'autres façons de vivre la famille. Et au fur et à mesure de ces évolutions, à chaque fois que la famille passe un cap, une naissance, un départ de la maison, c'est une crise qu'il va falloir qu'elle gère. Et plus une famille est souple, adaptable et créative au niveau de ses solutions, plus elle passera ses caps en souplesse. Si c'est une famille psychorigide avec des idées très arrêtées, si les problèmes ne sont pas résolus mais uniquement masqués et tus, à chaque fois qu'une nouvelle crise se présentera, les problèmes non résolus de l'étape précédente se réactiveront et en fait la famille ira en étant de plus en plus dysfonctionnante. C'est pourquoi il est important de bien comprendre tous ces positionnements familiaux. Alors si on repart depuis le départ que je vous disais, une famille c'est avant tout un couple, un homme et une femme qui s'aiment, qui ont décidé de fonder quelque chose. Et déjà à ce niveau-là, il y a un énorme travail à faire pour créer un lien conjugal solide. Parce que le lien conjugal de ce couple sera le pivot de la structure familiale et en assurera toute la souplesse, la flexibilité et aussi la solidité. Donc rappelez-vous bien ceci, une famille c'est avant tout un couple et un couple conjugal. Et plus le couple conjugal est solide, plus le reste ira de soi. Pour qu'un couple conjugal soit solide, c'est simple, il y a 4 piliers dans un couple et il suffit de vérifier s'ils fonctionnent bien. Premier pilier, une bonne amitié, quelque chose qui donne l'impression qu'on a des choses à faire ensemble, qu'on se comprend, qu'on s'entend bien, des projets de vie communs. J'aime bien l'image de la cordée en montagne, l'impression qu'on va tous les deux vers le même but, vers le même sommet, l'impression aussi que quand il y en a un qui traîne un peu, qui est fatigué, l'autre peut tirer sur la corde, mais que c'est réciproque et qu'on se protège mutuellement des chutes. Voilà, ça c'est pour la façon dont moi je vois l'amitié dans un couple. Ensuite, de la tendresse. Un couple fonctionne énormément avec de la tendresse. La tendresse, c'est les petites gouttes d'huile dans les rouages qui font que ça tourne rond. La tendresse, c'est la capacité à avoir des gestes tendres et des petites attentions l'un vers l'autre, il ne faut pas que ce soit à sens unique, en dehors d'un contexte purement sexuel. C'est être capable d'entendre que l'autre est fatigué, lui dire « laisse, aujourd'hui c'est moi qui vais faire le dîner ». C'est sentir que l'autre a besoin qu'on lui masse les épaules pour se détendre. C'est avoir un petit geste tendre, une caresse dans le dos au passage, un sourire. C'est tout simplement s'accueillir le soir quand on rentre du travail. « Bonsoir chérie, as-tu passé une bonne journée ?» Et on pose qui son torchon ou son éponge ou qui sa souris d'ordinateur, et on vient réellement dire bonsoir à l'autre, au lieu de dire « Oh, t'es déjà là ?» hein, dire « Quel plaisir que tu rentres si tôt !» et prendre le temps de s'accueillir. C'est tout ça, les petites attentions et la tendresse. Pour qu'un couple fonctionne bien, il faut également qu'il y ait de la communication. Et la communication est à 80% faite d'écoute. On communique bien si on sait s'écouter et entendre ce que l'autre a à dire. Ce que j'ai à dire après sera de toute façon beaucoup plus pertinent si j'ai bien écouté en amont ce que l'autre voulait exprimer. 80% d'écoute, 20% d'expression et surtout une bonne capacité à se disputer de manière constructive. C'est un bon moyen de vérifier si la communication est bonne dans votre couple. Il suffit de voir si quand vous avez des conflits, ils sont constructifs et ils amènent des solutions ou s'ils sont stériles et que vous tournez en rond dedans. Enfin, bien évidemment, un couple, c'est avant tout une aventure sexuelle et une sexualité épanouie pour les deux partenaires est hyper importante pour que le couple fonctionne bien. Avec ces 4 piliers, si vous vérifiez en permanence qu'ils sont tous les 4 entretenus, votre couple devrait être assez solide pour traverser toutes les épreuves et tous les bouleversements qui l'attendent tout au long de sa vie. Et la première épreuve qui attend un jeune couple, c'est la belle-mère. C'est Milton Erickson, le grand thérapeute américain, qui disait « Le drame de l'être humain est d'avoir une belle-mère. » Dans aucune autre espèce au monde, on a de relations entre ascendants et enfants à partir du moment où les enfants sont adultes. Jamais dans la nature, une mère ours ira expliquer à sa fille ours comment elle doit élever ses oursons. Elle n'ira pas non plus les lui garder le mercredi après-midi ou quand ils ont la varicelle. C'est vraiment une spécificité humaine que de devoir composer entre génération ascendante et génération descendante, de garder cet amour vertical finalement dans l'arbre généalogique qui vient s'intercaler avec l'amour horizontal qui s'est formé dans le couple. Alors les beaux-parents, eh bien, c'est une grande source de souffrance. Il y a énormément de blagues sur les belles-mères. Je ne sais pas si vous devez en connaître énormément. Ce sont des blagues qui se veulent drôles, mais qui ont souvent un fond extrêmement violent. Je vous donne un exemple concret. « Oh, ma belle-mère est un ange », dit l'un des deux. L'autre répond « Tu as bien de la chance, la mienne est encore en vie ». C'est vous dire à quel point les blagues sur les belles-mères sont assez féroces. Une autre que j'aime bien aussi, si vous ne savez pas ce que c'est que des sentiments partagés, c'est quand votre belle-mère recule vers le ravin avec votre voiture neuve. Voilà, c'est le type de blague qu'on dit sur les belles-mères, c'est vous dire à quel point l'animosité est forte vis-à-vis de l'emprise que certains parents peuvent garder sur leurs enfants adultes. Et là, c'est important que le jeune couple soit solide pour que chacun des deux puisse protéger l'autre des assauts des grands-parents, des beaux-parents, pardon, on n'est pas encore grands-parents, des beaux-parents. Donc vérifiez aussi que la distance est bonne, aussi bien au point de vue géographique qu'au point de vue psychologique. Il ne faut plus tout dire à papa et maman, il ne faut pas appeler sa mère tous les jours, c'est beaucoup trop. Si la bonne distance c'est minimum 10 km, parce que c'est un avis très personnel, après chacun fait comme il veut. Parce que le problème c'est que si on reste trop proche de ses parents, ça finit mal. En général, ça met beaucoup, beaucoup d'animosité dans le couple. Mais si on prend trop de distance aussi, ça finit mal également. On n'est pas bien. Notre espèce est faite pour avoir des relations. On n'est pas bien quand on est trop loin de ses parents aussi. Donc, c'est une bonne distance à trouver. Mais réalisez aussi à quel point c'est important pour votre conjoint que vous restiez un homme adulte ou une femme adulte et non pas que vous redeveniez un petit garçon en culotte courte ou une petite fille avec des couettes dès qu'il y a vos parents dans la région. Ça nuit énormément à l'entente du couple que de laisser les parents être trop présents. Une fois que vous avez trouvé la bonne distance avec vos parents, qu'ils vous traitent bien en personne adulte, qu'ils respectent votre espace et votre intimité, en général, ce qui se passe, c'est que les enfants arrivent. Et là encore, c'est un sacré bouleversement parce que l'arrivée de l'enfant va remettre en cause les raisons pour lesquelles on s'était mis en couple et va devoir aussi prendre en compte de nouvelles valeurs. Par exemple, on s'était mis en couple parce qu'on s'aime bien, mais on n'avait pas spécialement anticipé sur demain. L'arrivée de l'enfant veut dire cet homme-là, cette femme-là va rester mon conjoint. En tout cas, je resterai à vie liée avec lui à partir du moment où nous aurons un enfant. Parce que pour ceux qui ont divorcé, vous le savez, on ne divorce pas de l'autre parent. On doit de toute façon garder un lien parental, même si on n'est plus ensemble. Donc de toute façon, à partir du moment où on fait un enfant, c'est à vie qu'on devra composer avec l'existence de l'autre. Alors effectivement, ça peut faire paniquer. On était bien ensemble au jour le jour, mais à long terme, est-ce que c'est vraiment le père ou la mère que je voulais pour mes enfants? Est-ce que notre amour est suffisamment solide? Est-ce qu'on a suffisamment de passion commune? Alors, quand on s'est marié, surtout pour fuir ses parents, la raison même d'être ensemble est déjà dépassée. L'idée d'avoir en plus un enfant, alors qu'il n'y a déjà plus aucune raison d'être ensemble, vous voyez, l'arrivée d'un enfant n'est pas neutre, et c'est pour ça que, paradoxalement, ce n'est pas dans toutes les familles qu'on saute de joie. De la même façon, chez les beaux-parents en passe de devenir des grands-parents, cet idiote, on l'a toléré à peu près parce que, bon, visiblement, il s'en était entiché, ou ce bon à rien, hein, c'est la même chose, mais à partir du moment où il y a un enfant qui arrive, eh bien, ça va devenir un gendre ou une bru, et ça va devenir le père ou la mère de mes petits-enfants. Et là, c'est une autre histoire. Et l'arrivée de l'enfant, obligeant à se projeter à très long terme, eh bien, remet toutes les données à plat. De la même façon, si un couple s'est choisi pour leur amour de la montagne et qu'ils sont tous les week-ends en montagne, qu'est-ce qui va se passer quand l'enfant va arriver? Si c'était ça leur passion commune, comment ils vont réajuster leur violon? En général, ce qui se passe, c'est qu'il y en a un qui se met à faire de la montagne pour deux et l'autre, devinez laquelle, qui reste à côté du berceau et des couches-culottes et donc automatiquement, ça crée des clashs. Donc, il faut absolument revisiter les raisons qu'on a d'être ensemble au niveau conjugal parce que ça va être très important sur la suite des événements, d'autant plus qu'il va falloir en parallèle créer un nouveau couple qui s'appelle le couple parental. Ça y est, je l'ai. Hein, le couple parental. Vous avez le couple conjugal et le couple parental. Le couple parental, ça va être de papa à maman, de père à mère, l'obligation de synchroniser nos données éducatives. Or, une éducation, ça n'est jamais neutre, vous le savez bien. Souvent, on a des idées très arrêtées en matière d'éducation. On a beaucoup de choses à réparer de notre propre enfance. Moi, on m'a forcé à porter des chaussettes écossaises. Je peux vous dire que, à ce titre, mes enfants n'en ont jamais porté une paire. Alors, imaginez si le père de mes enfants, croyant bien faire, avait ramené une paire de chaussettes écossaises à la maison, le drame que ça aurait pu être. Ça paraît être anecdotique, mais c'est toutes ces petites données à synchroniser des plus petites aux plus grandes, parce qu'il y a aussi les valeurs à transmettre aux enfants, justement, sur le respect de la loi, sur une certaine éthique, sur ce qui se fait, ce qui ne se fait pas, le bien, le mal, sur la façon de faire face à ses responsabilités ou pas. Il y a des familles où on apprend plus aux enfants à se défiler devant les responsabilités qu'à y faire face, etc. C'est tout le code d'éducation qui va devoir se synchroniser, sinon on va passer notre vie à aller de clash en clash et à saboter l'autorité de l'autre. Et ça, c'est assez fréquent dans les couples. Dès qu'il y en a un qui essaye de poser une limite, l'autre intervient et sape l'autorité. Mais fichez-lui donc la paix, c'est pas si important. Et puis la fois d'après, c'est l'inverse. Et l'enfant gagne de ce climat une redoutable impunité. Ce qui est important aussi à réaliser, c'est que le couple parental doit se créer en parallèle du couple conjugal, mais en aucun cas s'y substituer. Or, c'est un cas de figure de plus en plus fréquent qu'à partir du moment où il y a des enfants dans une maison, les adultes deviennent plus des parents que des maris et femmes. C'est le pédiatre Aldo Nauri qui, dans son dernier livre, recommande vivement aux parents de beaucoup, beaucoup faire l'amour, ce qui est une façon humoristique de leur dire « restaurer le lien conjugal pour pas que le lien parental prenne trop d'importance, parce que sinon ça met l'enfant au centre de la famille et c'est beaucoup trop lourd à porter pour lui et c'est pas très sain pour tout l'équilibre familial, que ce soit lui qui ait tous les regards, tous les enjeux, toutes les énergies. » Et je vous rappelle, je vous l'ai dit juste avant, le couple conjugal est le garant de la solidité de vos structures. On voit actuellement une explosion des divorces autour de 55 ans. C'est très bizarre, là, brusquement, les gens de 55 ans se séparent. Ben oui, c'est assez logique quand on réalise qu'on a probablement remplacé le lien conjugal par un lien parental qui n'a plus de raison d'être quand les enfants sont élevés. Et donc, on découvre quand les enfants ont quitté la maison qu'on n'a plus rien à se dire en dehors d'eux. Donc c'est important de bien garder le couple conjugal solide, solidaire, d'autant plus que dès le test grossesse, eh bien, revoilà belle-maman. Parée du titre de grand-mère et de grand-père, les beaux-parents vont voir leur intérêt pour la famille se réactiver et il va à nouveau falloir trouver un nouveau positionnement. J'ai reçu un jour en consultation une jeune femme qui était très malheureuse, qui ne comprenait pas du tout ce qui lui arrivait. Jeune mariée, ils avaient pris le temps de se poser, ils avaient un couple qui marchait bien. Et dans cet amour-là, ils avaient décidé de faire un bébé. Elle a sauté de joie au test grossesse. Et puis, petit à petit, les choses se sont dégradées. Quand elle est venue me voir, elle était en larmes, elle devait être enceinte de 2 mois. Juste la période où il est encore possible d'avorter. Mais c'était limite, il fallait qu'elle prenne la décision. Et elle me disait, je ne comprends pas, cet enfant, je l'ai voulu, on s'aime. Et puis, depuis que je suis enceinte, je ne vais pas bien du tout. Et cet enfant, j'en veux plus, j'ai qu'une idée, c'est avorter. Et on a étudié ensemble, on n'a pas mis longtemps à comprendre ce qui s'était passé. Il s'est simplement passé qu'avant même la naissance du bébé, dès le test grossesse, elle s'était fait kidnapper son enfant par les grands-mères. À savoir que c'était 2 femmes seules, donc très disponibles encore, donc un lien conjugal pour les occuper, qui dès l'annonce du test grossesse ont sauté de joie au plafond et ont commencé à s'organiser toutes les deux. Elles avaient défini des tours de rôle pour la maternité et des tours de rôle pour la sortie de la maternité parce qu'il fallait absolument pas la laisser seule avec son bébé. Elle manquait tellement d'expérience, la pauvre petite. Donc vous, belle maman, vous irez telle date, moi je prendrai le relais. En parallèle, l'une devait se charger d'acheter la layette, l'autre devait acheter le mobilier et toutes les deux avaient décidé de déménager, de venir s'installer à proximité des enfants pour les leur garder à tour de rôle une semaine sur deux pendant qu'ils iraient travailler. Et la jeune fille avait des bouffées d'angoisse à l'idée de tout ce qui était en train de se mettre en place. Et à partir du moment où elle a pu le conscientiser et qu'on a vu ensemble quels étaient les mécanismes, eh bien, elle a mis son mari au travail, puisqu'il fallait qu'il commence lui aussi à investir son rôle de père protecteur. Et ils sont allés ensemble, en faisant front, recadrer les grands-mères. Ça n'a pas été simple. Il y en a une qui a fait la tête pendant plusieurs mois, l'autre qui a abondamment pleuré. Mais très rapidement, les choses se sont calmées. Les grands-mères sont retournées à leur place de grand-mère, ce qui a permis à cet enfant d'être à nouveau le bienvenu dans la vie de ce jeune couple. Vous voyez, ce n'est pas si simple et en même temps, on ne peut pas réellement jeter la pierre aux grands-mères. C'était une véritable raison de vivre qui leur était rendue à travers cet enfant. Je crois que les deux étaient enfants uniques. C'est pour ça aussi qu'il y avait un tel poids sur cette descendance. Et donc, les grands-parents sont bien à leur place de grands-parents. Si d'une part, ils ne se mettent pas en compétition avec leurs enfants pour savoir lequel des deux est le meilleur parent, bon ou mauvais parent, ce sont les parents qui sont les parents. Ça semble tomber sous le sens, mais ce n'est pas si simple dans la réalité. Et puis, un peu de modestie, rappelez-vous, notre premier enfant, personne n'était bien malin, on n'était pas plus doué qu'eux au même âge, et nous aussi, on a fait nos erreurs sur nos enfants. Ce n'est pas parce qu'on est devenu grands-parents qu'on a forcément la science infuse. Donc, bien à sa place, si on respecte les parents en tant que tels et qu'on ne se met pas dans une compétition, ça va... qui est le meilleur parent, bien à sa place si on n'a pas d'initiative et si on fait bien transiter les informations par le lien parental qu'on demande aux enfants avant d'atteindre les petits-enfants. Est-ce que tu es d'accord pour que je lui ouvre un compte épargne logement? Est-ce que tu es d'accord pour que je lui achète une peluche? Il est vraiment important que toutes les informations transitent par les parents. Alors, s'il y a des grands-parents dans la salle ou des gens en passe de le devenir, la terrible période va du premier test grossesse jusqu'aux 18 mois de l'aîné, après les parents se calment. Mais pendant cette période-là, vous êtes en examen. Hein, dès le test grossesse, il faut trouver la mesure. Ce n'est pas évident. Hein, ne dites jamais « Oh, mais de mon temps, on ne s'écoutait pas comme ça ». Tout faux si vous dites ça à la belle-fille. Hein, tout faux. C'est vraiment important d'être très prudent, très à l'écoute et d'en dire le moins possible, surtout de ne pas critiquer. Et surtout pas critiquer la façon de faire des jeunes parents, donc entre les deux premières années. Ils sont trop fragiles, ils sont trop peu sûrs d'eux pour pouvoir admettre vos critiques avec philosophie. Donc c'est vraiment important de retenir toute critique et au contraire d'encourager. Mais si, tu vas y arriver, tu fais ton mieux. Je sais bien, c'est pas facile les premières années. Oui, si vous empêche un peu de dormir, c'est normal. Mais surtout, surtout, ne critiquez pas. Les jeunes parents sont beaucoup trop susceptibles dans les deux premières années de leur enfance. Si vous avez réussi à être très prudent, très à l'écoute et très en retrait les deux premières années, c'est gagné pour la suite, pour l'aîné et pour les autres petits-enfants. Mais vraiment, c'est vraiment très, très difficile de trouver la bonne distance. J'ai une de mes clientes qui m'a dit comme ça que quand sa fille, qui habitait Paris alors qu'elle est en Haute-Savoie, quand sa fille lui a annoncé qu'elle avait les premières contractions et qu'elle rentrait à la clinique, sa mère, naturellement, lui a dit « j'arrive ». Elle a arrêté son travail, fait sa valise, et pendant qu'elle roulait sur l'autoroute en voiture, elle s'est demandé si elle ne s'était pas précipitée, si elle n'arrivait pas trop tôt, si elle n'arrivait pas trop tard, si elle n'aurait pas dû faire plus vite prendre l'avion. Elle ne savait plus trouver comment se positionner par rapport à sa fille. Donc c'est vrai que ce n'est pas facile en tant que beaux-parents, grands-parents, de trouver la distance. Posez des questions, demandez. « T'as des contractions, ma chérie, qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Dis-le-moi. » Je m'adapte, au lieu de dire j'arrive et de dire après ce que j'ai bien fait. Posez des questions, il ne faut pas hésiter en famille à poser des questions. Comment c'est bien pour toi ? Ah, c'est comme ça, j'aurais jamais deviné, j'ai bien fait de te demander. Hein ? Des fois, on ne sait pas, on se fait des idées de ce qui serait bien, puis quand l'autre nous dit, c'était totalement autre chose. Donc comme ça, les grands-parents sont bien positionnés, ils permettent comme ça aux enfants de jouer leur rôle de parent. Et alors, ce qui se passe à la naissance de cet enfant ? C'est que dans cette famille toute neuve se met en place un élément profondément important, peut-être incontournable, le plus important de tous les éléments d'une famille. C'est la frontière sacrée et magique entre le monde de l'enfance et le monde des adultes. Et c'est vraiment, vraiment important d'avoir conscience de l'existence de cette frontière et de la respecter. Il y a le monde des adultes dans lequel il y a maman, papa, grand-maman, grand-papa, et puis il y a le monde des enfants où je dois me trouver avec mes frères et sœurs. Et c'est vraiment important d'avoir conscience de cette barrière qu'il y a entre les deux mondes, parce que tous les dysfonctionnements familiaux viennent du non-respect de cette frontière sacrée et magique. Soit par des grands-parents qui sont infantilisants avec leurs enfants et qui ne leur laissent pas leur place d'adulte, soit par des parents eux-mêmes immatures qui ne veulent pas grandir et qui se mettent à égalité avec les enfants, ou encore plus grave, lorsqu'un enfant est adultifié ou, le pire du pire, parentifié. C'est hyper destructeur pour un enfant d'être traité en adulte, et c'est encore plus destructeur, c'est ravageur d'être traité en parent. Pour vous faire une idée de ce que ça peut représenter, visualisez un bébé de 18 mois avec ses couches en train de faire avec une prise de sang qui donne du sang à son parent. Vous voyez, c'est à peu près ça. C'est une inversion des rôles qui est très préjudiciable à l'enfant, parce qu'à un moment où il aurait besoin d'amour, de protection et d'énergie, c'est lui qui doit en donner. Donc c'est un des... Alors justement, dans notre société d'aujourd'hui, c'est un des principaux dysfonctionnements. Dernière publicité Renault, grandir, pourquoi faire ? Eh bien, pour se comporter en adulte, pour être des parents acceptables, pour assumer ses responsabilités et pour savourer les plaisirs de la vie d'adulte. Bon sang, il n'y a aucun plaisir à être immature. C'est ça qu'il faut réaliser aussi à un moment donné. Un petit peu plus en amont, vous aviez la publicité, la 806, la voiture que les enfants conseillent à leurs parents. parce que ce sont des experts en automobile, les enfants, maintenant, et ils peuvent se permettre de donner des conseils à leurs parents. Là aussi, récemment, c'était la dernière publicité pour les petits écoliers. Des grands-parents complètement immatures qui se déguisaient en ours pour piquer les petits écoliers de leurs petits-enfants, qui en retour les faisaient enfermer dans un cirque. Vous voyez l'énorme inversion des rôles qu'on nous propose actuellement au niveau social. Alors la publicité n'en est pas responsable, elle ne s'en fait que le reflet. Mais c'est ça qui fait qu'on va si mal en ce moment, c'est que plus personne n'est à sa place. Il y a eu mai 68, hein, le mythe du parent copain, il est interdit d'interdire. Il y a eu Françoise Dolto, qu'on a interprété complètement de travers. Quand elle a dit « l'enfant est une personne », elle n'a jamais dit « l'enfant est une grande personne ». Quand elle a dit « il faut tout dire aux enfants », elle voulait parler d'éviter les non-dits traumatisants, mais elle n'a jamais dit qu'il fallait prendre son enfant pour son psy, hein, etc., etc., etc. Et avec aussi les problèmes de crise économique, de l'adolescence qui va en perdurant, on a de plus en plus de mal à savoir à quel moment la frontière magique doit être franchie. Quand vous avez un enfant de 25 ans qui finit ses études, qui est au chômage et qui n'a pas encore de travail, est-ce qu'on le met dans la catégorie des adultes? Est-ce qu'on le met dans la catégorie des enfants? Comment on le positionne par rapport à la frontière magique? C'est ce que reprenait très bien le film Tanguy, hein, sur cette difficulté à trouver le moment de sevrer les enfants. Légalement, ils sont majeurs à 18 ans. Pour moi, on est réellement majeur quand on s'assume financièrement. Et ça, ça arrive de plus en plus tard. Alors, c'est là où les parents doivent apprendre un petit peu aussi à rendre le nid moins douillet aux générations. Aujourd'hui, on aime trop nos enfants, on les cocole trop, on les empêche trop de développer leur propre immunité face à la vie et leur propre instinct d'autonomie. Quand vous avez 30 ans, que vos parents vous lavent le linge, vous nourrissent et vous servent d'hôtel 3 étoiles et que maman passe encore en plus un coup d'aspirateur en râlant certes dans votre chambre, que votre salaire n'est que de l'argent de poche, comment voulez-vous avoir envie de quitter cette situation? C'est extrêmement piégeant. Donc moi je pense qu'il est vraiment important à partir de 18 ans que le nid devienne de moins en moins douillet. Hein, c'est la cruauté à court terme qui est de la gentillesse à long terme. 18 ans, il peut se servir de ma machine à laver. Vous voyez la nuance? Il peut. Tiens, je suis vraiment une maman gentille, tu peux te servir de ma machine à laver. Hein, 18 ans, une fois par semaine, c'est toi qui nous fais le repas, c'est un minimum. Hein, petit à petit, le rendre le nid moins douillet. Passer l'aspirateur à 8h du matin avant d'aller travailler, il n'y a pas de souci. Hein, même s'il est rentré de boîte, c'est sans problème. Vous vous rendez compte, moi j'ai des situations de parents qui me disent « Vous me comprenez, moi j'arrive pas à faire mon ménage parce que c'est pas possible, moi je travaille toute la semaine, puis le week-end comme il est sorti, il dort jusqu'à 1h de l'après-midi, alors après... » Mais passez l'aspirateur, madame, passez l'aspirateur, s'il est sorti en boîte de nuit, c'est sans problème, vous avez une vie à vivre. Et on fait silence, alors ils sont pas là le soir, ils dorment le matin, c'est là où il faut vraiment rendre le nid moins confortable pour leur donner envie d'aller s'installer ailleurs. Je pense qu'aussi, à un moment donné, il vaut mieux donner une aide financière concrète en leur payant un loyer d'un petit studio ailleurs plutôt qu'en les ayant à la maison. C'est beaucoup plus constructif pour tout le monde. Voilà, et comme ça, on passe le dernier cap de la famille qui est de sevrer les parents de leurs enfants. Si le lien conjugal était solide tout au long de ces années et qu'il s'est renforcé, entretenu avec ses quatre piliers, le départ des enfants sera bien vécu. Il n'y aura pas de syndrome du nid vide. Vous savez, on en parle beaucoup en ce moment. Il n'y aura pas de syndrome du nid vide parce que ce sera un vrai plaisir de se retrouver tous les deux, enfin tranquilles, de plus avoir des razzias dans le frigo, de ne pas retrouver la lumière du garage allumée à 2h du matin parce qu'il est rentré, il a oublié de l'éteindre. On retrouve une sérénité, ce que je vous disais tout à l'heure. Hein, la vraie vie commence quand les enfants ont quitté l'université et que le chien est mort. Là, et cette vraie vie-là commence si le lien conjugal a été soigneusement entretenu. Là, on retrouve le plaisir d'être tous les deux. Mais si on a laissé le lien conjugal se dégrader, qu'on n'était plus que des parents, on risque au contraire de devenir des parents toxiques, c'est-à-dire des parents infantilisants, des parents qui empêchent leurs enfants de quitter le nid, de s'autonomiser, donc des parents très culpabilisants, avec tout ce que j'ai fait pour toi, très intrusif, hein, et toute cette bonne volonté apparente que mettent les parents, soi-disant, à aider des jeunes, finalement, à rester dans la dépendance, sont autant de moyens de ne pas se retrouver face à face et de se rendre compte à ce moment-là qu'on n'a plus rien à se dire. Donc, le lien conjugal doit vraiment, tout au long de la vie d'une famille, être extrêmement solide et entretenu, de façon à ce que chaque étape puisse se passer en douceur et que chaque âge puisse vivre ses plaisirs. Donc, tous les dysfonctionnements familiaux viennent du non-respect de cette frontière. Un père qui ne se comporte pas en père, une mère qui ne se comporte pas en mère, un grand-parent qui ne se comporte pas en grand-parent ou un enfant qui ne se comporte pas en enfant. À partir du moment où tout le monde est bien à sa place dans une famille, eh bien, dans ce cas-là, la famille fonctionne toute seule et peut passer très efficacement tous les stades de son évolution. Souplesse, créativité, ouverture d'esprit, et après, tout roule, tout fonctionne normalement. Voilà, vous avez maintenant tous les ingrédients. Une famille qui fonctionne bien, c'est une famille où tout le monde est à sa place. C'est à la fois tout simple et extrêmement compliqué à réaliser. Alors, bon courage. Merci de votre attention.
Je pense que vous aurez des questions à poser.
Voilà, donc moi, maintenant, je suis disponible pour vous. C'est vous qui allez me donner votre avis, vos témoignages, et je suis disponible aussi pour répondre à vos questions.
Tout le monde est heureux. Ah, quand même.
J'ai envie d'en poser une quand même qui rejoint un petit peu ce que vous venez de dire, mais je voudrais entendre la réponse. Qu'est-ce que vous pensez des parents qui hébergent les jeunes couples? Vous savez, on les appelle les bébés couples, je crois.
Les générations kangourous, c'est ça? Où ils sont installés dans la poche de leurs parents?
En couple?
Voilà. Alors, moi, je ne suis pas pour du tout. Hein. C'est le fait que les enfants adultes et en couple vivent chez leurs parents, ça ne me paraît vraiment pas sain du tout. Et en même temps, il y a un énorme problème économique aujourd'hui, c'est qu'un jeune couple avec des tout petits salaires de jeune couple et leur précarité d'emploi ont un mal fou à faire face au loyer. Enfin, j'imagine, vous, à Paris, c'est pareil que nous, en Haute-Savoie, du côté de Genève, Annecy et Annemasse, les loyers sont hors de prix pour un jeune couple qui gagne que le SMIC. Alors, c'est extrêmement difficile d'être péremptoire et de dire « c'est un scandale, il faut que ça s'arrête chacun chez soi ». Bien que ce serait ce qui serait le plus sain, maintenant, si au point de vue économique, ça met les enfants en détresse, c'est difficile. Mais c'est vrai que moi, je prônerais plutôt une aide financière des parents qu'une aide matérielle en leur permettant de s'installer là. Ça me paraîtrait plus judicieux pour aider ce couple à démarrer. Ça répond à votre question ? Merci.
Bon, j'ai réagi tout à l'heure quand vous avez parlé de l'amitié en particulier en faisant une comparaison avec la cordée.
Oui, je suis un peu savoyarde.
Oui. Alors, moi, j'aime beaucoup la cordée, mais réellement en montagne et non pas au niveau de l'amitié. Pour moi, l'amitié, c'est pas être en cordée, hein, surtout dans le couple.
Oui, vous avez raison. Mon image de la cordée ne rend pas assez compte du besoin d'air et d'autonomie qu'il y a dans un couple, c'est ça. Oui, donc c'est judicieux de le rectifier. Effectivement, moi, je voyais le côté entraide. Ben, je le voyais du côté féminin, où nous, on est beaucoup plus grégaires que vous, les hommes, où on a moins ce besoin d'autonomie dans le couple, où on peut faire les choses ensemble. Mais vous avez raison. C'est important aussi, de temps en temps, que chacun fasse ses petites marches en montagne de son côté et ramène des choses nouvelles dans le couple. Merci pour cette précision.
D'accord.
Oui, l'un n'empêche pas l'autre, vous avez raison, absolument. Mais le fait d'être encordé, effectivement, peut pour certaines personnes avoir cette connotation d'être enchaîné. Donc oui, c'était le but, mais je trouverai une autre image pour une prochaine conférence.
Autre question ?
Quelle attitude des grands-parents doivent adopter quand leurs enfants adultes demandent de garder leurs propres enfants?
Ah, ça, c'est une bonne question. Comment Comment les grands-parents doivent-ils réagir? Alors, moi, je ne suis pas pour le fait que la garde soit officialisée comme étant une nourrice à plein temps. Ça, ce n'est pas bon du tout. Il y a confusion dans la tête de l'enfant sur plein de choses. Donc, pour moi, la garde des grands-parents, elle doit rester ponctuelle. Hein, c'est un échange de services et de plaisir aussi. On peut partir en vacances avec ses petits-enfants. Alors, le mieux, c'est que les parents mettent en place un système de garde qui est le leur et que les grands-parents restent disponibles, effectivement, pour le coup de la varicelle pour ou un problème de garde ponctuel, avec éventuellement, pourquoi pas, un jour dans la semaine qui est le jour de mamie. Alors, ça dépend aussi de l'âge des enfants. C'est vrai qu'ils peuvent aller passer un mercredi par mois ou un mercredi sur deux chez mamie, mais tous les mercredis, c'est très contraignant, très aliénant. On ne se rend pas compte sur le moment. Hein, oh, c'est chouette, je vais avoir mes petits-enfants. Puis on ne se rend pas compte comme c'est aliénant et piégeant de les avoir tout le temps. Le gros problème qu'il y a souvent dans la garde des enfants, des petits-enfants, c'est que les enfants attendent des grands-parents qui soient toujours disponibles au pied-levier. Tu peux venir garder Benoît, s'il te plaît. Mais par contre, ils vont oublier de vous prévenir quand ils se sont organisés autrement. Donc vous avez bloqué votre journée du mercredi parce qu'il était prévu que vous aviez Benoît. Et puis, vous avez un petit doute, mardi soir, vous vous appelez. Et alors Benoît, ah bon, t'as pas dit, finalement, il va chez Coralie parce qu'elle l'a invité, il a un anniversaire. Tu ne pouvais pas me le dire. Hein? Et là, c'est vraiment, le maître mot, c'est respect mutuel. Donc le meilleur moyen de faire respecter son espace vital, c'est de ne pas être disponible à 100% tout le temps, c'est-à-dire de s'autoriser régulièrement à dire non, je ne peux pas te le garder, je ne suis pas disponible. Hein, le fantasme de toute puissance que gardent les enfants si maman, dès qu'on fait ça, réagisse. Est-ce que ça répond à votre question? Vous voulez apporter un témoignage?
Disons que moi j'ai une fille qui ne supporte pas mettre ses enfants en nourrice, il faut toujours que ce soit les grands-parents, les deux côtés.
C'est lourd pour vous, hein? C'est extrêmement lourd.
Mais pour l'autre grand-mère aussi.
Mais bien sûr.
Mais ça nous est imposé.
Vous auriez du mal à refuser?
Je l'ai fait, ils ont rompu pendant le temps que je
l'ai fait. Oh, ben, mais ça, c'est une situation qui n'est pas banale, hein? Effectivement. Et elles ont quoi, les nourrices, hein? La crèche, ils vont bientôt grandir, les enfants, j'espère.
Non, mais j'ai une petite fille qui a 20 mois, et je la garde moins. À mi-temps avec l'autre grand-mère.
Mmh.
Ma fille attend un deuxième enfant et elle compte que je vais garder les deux.
Oui, c'est pas normal.
Ma grand-mère a 80 ans.
Et mais qu'est-ce qui fait qu'elle n'est pas d'accord? Ça coûte trop cher, une nourrice, ou elle n'est pas capable d'en trouver une bonne toute seule, de savoir repérer quelqu'un de sain, quelqu'un de malsain?
Ma fille fait des angoisses terribles si c'est quelqu'un d'autre.
Alors, je vous taquine un peu, mais j'ai envie de vous conseiller pour vous mon livre S'affirmer, oser dire non, et pour elle mon livre Émotion, mode d'emploi, pour qu'elle sorte de ses angoisses. Hein, parce que ces angoisses, c'est pas normal, elle va les transmettre à ses gamins en plus, donc c'est bon pour personne qu'elle reste dedans. Les angoisses, ça se soigne, hein. faut pas laisser pourrir la vie à toute une famille au nom des angoisses de quelqu'un. Ça se soigne, les angoisses. Hein. Donc, mon livre Émotion, mode d'emploi est un très bon livre pour commencer à explorer ses émotions et à soigner ses angoisses.
Ma fille est psychologue.
Comme quoi, hein, on est bien les plus mal chaussés. Eh bien, alors, bon courage, madame. Et oui, parce qu'avec un psychologue, en plus, on a toujours raison. C'est ce que me disent mes enfants. De toute façon, t'as toujours raison.
Moi, je vais dire quelque chose d'un petit peu perso.
Oui, allez-y, je vous en prie.
Vous parliez tout à l'heure des grands-mères qui prenaient le train sans savoir si même elles n'auraient pas dû prendre l'avion pour arriver plus vite dans la salle d'accoucher. Grand-mère depuis mars dernier.
Oui.
Et donc, voilà comment ça s'est passé. Enfin, il y a eu quelque chose qui s'est passé. C'est que comme j'habite Paris et ma fille habite le Var,
oui.
Moi je ne me suis pas posé une seule fois la question de savoir si j'allais prendre un moyen de transport. Mais par contre, dès qu'elle a eu ses premières contractions, elle m'a téléphoné. Et il y a eu un échange comme ça entre nous. Très, je trouve très joli, si je peux me permettre l'expression, parce que ça a duré le temps de certaines contractions. Après, elle m'a dit, bon, bah, je raccroche. Après, elle me dit, ça ne te dérange pas de m'appeler des petites fois. Et j'ai trouvé que c'était vraiment un moment d'intimité entre nous qui était retrouvé. C'était quelque chose de vécu pour la première fois et qui était très beau, quoi. Et jusqu'à ce qu'elle descende en salle de travail. Et là, elle m'a dit, de toute façon, elle voulait que j'appelle... Quoi, et j'ai appelé son mari par table à portable, puisque ça se passait dans le bar, et il m'a dit, ben, j'allais justement rentrer dans la clinique. Et je trouve que ça nous fait un souvenir qui est vraiment très beau.
Finalement, c'était mieux d'être comme ça en contact, avec une certaine distance de téléphone, très intime, et tout en respectant aussi l'intimité du couple, plutôt que de se ruer dans le premier avion.
Oui, moi, ça m'est même pas venu à l'idée.
Elle n'avait pas demandé à ce que vous soyez là pour l'accouchement. Donc c'était effectivement, c'est une très jolie présence comme ça. C'est vrai que c'est un moment fort entre mère et fille, un accouchement normalement.
Je pense que ça restera de côté.
Oui, c'est une très bonne demi-mesure. Vous savez, le portable, on appelle ça le cordon ombilical satellisé. Hein, c'est un bon moyen de rester en contact aussi, tout en respectant l'intimité et la distance.
Une dernière question ? Madame Petit-Colin pourra signer ses ouvrages au stand Jouvence.
Voilà, et si vous avez d'autres questions plus personnelles, j'aurai plaisir à y répondre aussi. Merci pour votre présence, pour votre attention, et bien à vous.
Merci, madame.